Bonjour à tous. Déjà pour commencer, du coup aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mon activité au niveau de la métropole lilloise. Donc au niveau du service du SAMU social. Donc moi il faut savoir que j'y travaille dans cette association depuis 2016 où j'ai commencé au 115 et par la suite j'ai intégré les équipes mobiles du SAMU social. On peut passer à la slide suivante. Donc, au niveau de l'institution, donc nous, je dépends de la CMAO. Donc, c'est une association d'associations qui est composée de trois services. Donc, il y a le 115, qui est l'appel, la plateforme d'urgence numéro vert pour les personnes sans domicile, qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc avec des écoutants qui permettent l'orientation des personnes sur... Non, on reste sur cette slide-là.
Pardon.
Désolée. Qui reste sur du coup des places d'hébergement exclusivement d'urgence et de stabilisation. Même si on parle d'urgence, on ne parle pas d'urgence au sens de la temporalité, puisque chaque place qui est proposée sera disponible sur de la longue durée. Soit la personne changera, évoluera au niveau d'une structure différente, ou alors peut rester X temps dans la structure, il n'y a aucun souci. Ensuite, il y a un deuxième service qui est le SIAO. Donc, ce n'est pas le même service que le 115, c'est différent, qui propose de l'hébergement plus dit de stabilisation, voire d'insertion auprès du coup des personnes isolées, des familles. Ils peuvent également proposer du logement. Voilà. Et ensuite, il y a nous, du coup, le SAMU social. Donc, nous, au niveau du SAMU social de Lille, il faut savoir qu'on a plusieurs missions différentes. J'ai essayé de vous les présenter ici très rapidement. Donc, notre plus grande mission, ça sera le travail de rue. Donc, qu'est-ce que c'est que le travail de rue pour nous? On le définit comme ça. Donc, c'est des maraudes qui seront dirigées où on ira voir des personnes que l'on a en référence. En règle générale, on va parler exclusivement de double référence. Pourquoi? Puisque c'est compliqué pour nous avec toutes nos missions et nos horaires qui sont assez conséquents de pouvoir suivre quotidiennement une personne. Donc en règle générale avec un collègue, comme ça on pourra également se compléter au niveau de nos compétences, on pourra suivre au mieux la personne. Donc, nous, on accompagne des personnes donc, qui seront isolées, pour qui un accompagnement social en structure n'est pas possible dans l'immédiat. Elles ne peuvent pas, ces personnes-là, en fait, elles ne sont pas en capacité d'aller sur des structures de droit commun. Donc, c'est pour ça que nous, dans un premier temps, on va les prendre en référence. En règle générale, du coup, voilà, c'est ça. Donc, on est deux référents pour une situation. Ensuite vient les actions via le 115. En ce moment, par exemple, avec le froid, c'est une de nos missions qui s'intensifie énormément. Donc là, ça sera vraiment en lien avec le 115. On décline nos deux aspects d'une logique d'aller vers. Donc il y aura la première part donc, qui est les demandes de couverture des personnes. Malheureusement, on n'est pas en capacité d'orienter chaque personne qui le souhaite sur des structures d'hébergement. Donc, quand les personnes ont trop froid, on leur propose des couvertures. Donc, nous, ça sera un rendez-vous qui nous permettra aussi de proposer à ces personnes une évaluation, s'assurer qu'elles sont à jour dans leur démarche, que leurs droits, en tout cas, est actif au niveau des ressources, etc. Et par la suite, du coup, de les orienter vers les dispositifs nécessaires. Et ensuite, on aura les signalements. Donc, c'est des personnes lambda qui, dans la rue, voient une personne, s'inquiètent pour elle, appellent le 115. Et nous, on viendra voir cette personne, donc toujours en premier dans une logique d'évaluation, s'assurer que la personne va bien, etc. Ensuite, on a une dernière mission, c'est le CARE. Mais je vais en parler un peu plus tard. Donc, je ne vais pas pour l'instant... Le définir. On peut passer du coup à la slide suivante. Donc là, je vais vous présenter un petit peu le public qu'on rencontre. Je suis désolée, j'ai eu un petit souci de photo. Donc nous, on rencontre un public qui est très hétérogène de par le sexe, l'âge et la composition familiale. Et ensuite, on peut observer encore diverses problématiques liées par exemple au handicap psychique ou physique, des problématiques aussi au niveau addicto et des situations administratives qui peuvent parfois être précaires, des personnes qui sont victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales, etc. Le point commun de tous ces publics, c'est une espérance de vie qui est moindre, puisque c'est une espérance de vie de 48,7 ans. Donc, c'est-à-dire quand on connaît un parcours de rue, notre espérance de vie, elle diminue grandement. Donc ça, c'est un chiffre des collectifs de la mort qui date des collectifs des morts de la rue qui date de 2018. Donc là, pour aujourd'hui, forcément, j'ai ciblé le public jeune. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu chaque problématique qu'on peut rencontrer avec ces publics jeunes et comment faire du coup pour les accompagner au mieux. Donc, on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, quelles ressources pour les jeunes ? Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà vu rapidement tout à l'heure. Je vais vous le réexpliquer quand même. Du coup, quelles ressources pour les jeunes ? Donc, il faut savoir que quand on est jeune, en France, on peut bénéficier premièrement, donc, c'est du RSA. Donc, le RSA, le Revenu de Solidarité Active. Donc, comme on l'a dit précédemment, il faut avoir 25 ans ou être parent isolé. Si on est ressortissant européen, donc, par exemple, pour la Belgique, il faut avoir un droit de séjour, avoir travaillé en France et être inscrit à Pôle emploi, ça c'est très important, sinon on ne peut pas avoir le RSA. Si on est ressortissant d'un autre pays, on peut bénéficier également de cette aide sous certaines conditions, donc c'est-à-dire être reconnu réfugié ou apatride, ou bénéficier de la protection subsidiaire, ou avoir une carte de résident, ou bien un titre de séjour depuis au moins 5 ans. C'est une aide qui s'élève environ à 560 €. Donc c'est très compliqué quand on est jeune de bénéficier déjà de cette ressource. Ensuite, on a une autre aide qui est disponible quand on est jeune, c'est la garantie jeune. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça permet d'accompagner des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont en situation de grande précarité vers l'emploi ou la formation. Donc, ça permet de mettre en œuvre. Donc, c'est un contrat qui est signé entre le jeune et la mission locale. Donc, la mission locale, c'est un dispositif qui est spécifique aux jeunes, pour les jeunes qui ont jusque 25 ans. Et qui, en fait, c'est une association qui accompagne vers la formation et l'emploi pour information. Donc, ce dispositif, il s'accompagne bien évidemment d'une aide financière. Et pour un jeune en situation de rue, c'est très compliqué de l'obtenir puisque travailler quand on est à la rue, ce n'est pas forcément évident. Donc, on ne rencontre pas beaucoup de jeunes qui disposent de cette garantie. Ensuite, il y a une dernière ressource quand on est jeune dont on peut bénéficier, donc c'est l'allocation pour les adultes handicapés. C'est une aide financière qui permet d'avoir un minimum de ressources. Donc, cette aide, elle est attribuée, bien évidemment, sous réserve de respecter des critères d'incapacité, d'âge, de résidence, de ressources. En règle générale, ça s'élève environ à 900 € par mois. Donc, c'est une aide qui peut être conséquente quand on est jeune pour commencer dans la vie, mais là encore, c'est des dossiers qui sont assez complexes et du coup, c'est assez rare parfois qu'on puisse trouver des personnes avec ce type de ressources. Donc nous, la majorité des jeunes qu'on rencontre, malheureusement, sont sans ressources et ça sera une grande difficulté pour les faire aller vers le logement de droit commun. Donc dans une logique de logement d'abord, ça sera très, très compliqué. On peut passer au diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, l'addiction sur l'île, c'est une grande difficulté, de nos grandes problématiques, puisque l'île, en fait, c'est la ville où le rapport qualité-prix concernant les produits stupéfiants est l'un des plus compétitifs d'Europe. Le produit qui sera le plus consommé par des personnes qui sont en situation de rue, outre l'alcool, ça sera l'héroïne. Donc, l'héroïne, aujourd'hui, sur l'île, il faut savoir qu'elle s'élève à 12 € le gramme, avec, donc, comme j'ai inscrit, donc, des mini-doses qui seront de 5 € sur le marché. Donc là, c'est vraiment accessible pour les personnes à la rue et ça sera très dévastateur. Donc nous, on accueille du coup un large public qui est venu dans le but de consommer des produits donc de bonne qualité à petit prix. Et ce public, il est également constitué de jeunes. Donc on a sur notre territoire donc des personnes qui viennent donc de toute la France, voire de toute l'Europe, donc notamment des Belges beaucoup, puisque la proximité fait que ça attire énormément. Donc nous, sur notre territoire, on travaille pas mal avec des partenaires, donc c'est des CARU, donc des centres d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, et des XAPA, donc qui sont également des associations qui sont vraiment spécialisées dans les troubles addictifs et pour l'accompagnement du coup vers la réduction des risques ou d'autres ou d'autres types d'accompagnement. Donc nous, on travaille vraiment en lien avec eux, puisque c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur sur la métropole. Donc pour ce type de public, généralement, il sera très, très compliqué de les accompagner rapidement vers l'hébergement. L'addiction, elle est tellement grande en fait que c'est quasiment la seule préoccupation de la personne dans la journée. Donc à savoir, en règle générale, ça sera faire la manche pour pouvoir consommer. Et ensuite, du coup, quand vraiment l'addiction, elle prend de plus en plus de place, il faut savoir que pour les personnes les plus abîmées par ces addictions, en règle générale, nous, on sera en capacité de les accompagner uniquement quand on se posera la question du soin, c'est-à-dire que la personne, elle sera dans une situation sanitaire qui mettra en danger, en règle générale, sa vie. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très, très graves, puisque, outre ce type de problématique, l'addiction, en fait, elle prend de la place, elle prend de la place, et nous, on n'arrive pas du tout à accéder, enfin, à accompagner les personnes. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, en règle générale, malheureusement, des personnes qui souffrent de gros troubles addictifs, elles se retrouveront rapidement dans une situation de non-recours. Pourquoi? Parce que la personne ne renouvellera pas ses droits, par exemple, à la CAF, au RSA, etc. Et du coup, très vite, en fait, la personne va se retrouver sans ressources, sans documents d'identité, parce qu'elle les aura perdus. Et donc là, on parle vraiment de chronicisation des personnes à la rue. Les personnes, elles vont s'isoler dans leur consommation, plus de laisser de place du coup au temps pour renouveler leurs droits, donc perte de documents d'identité, perte de ressources, ils se coupent du droit commun. Donc c'est un cercle très dur à rompre. Donc là, sur notre territoire, nous aussi, donc comme je vous l'ai indiqué, on a remarqué que les dealers aussi s'adaptaient au public sans domicile et qui proposent des mini-doses de 5 euros. Donc c'est vraiment favoriser l'accès pour les personnes ayant un petit budget à des consommations massives, puisque récolter 5 euros en manche, c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Donc la personne, elle part faire la manche, elle consomme, part faire la manche, elle reconsomme. Donc on est vraiment sur ce type de schéma très répétitif. Donc voilà. Ensuite, pour le diapo suivant. J'ai voulu parler du CARE. Oui, voilà, c'est ça. Donc, le CARE, on va en revenir ici, puisque, en règle générale, on sera du coup par rapport au public, notamment qui peut souffrir de troubles addictifs, sur ce type d'accompagnement. Donc, le CARE, c'est quoi? Donc, ça veut dire en français prendre soin, s'occuper d'eux, se soucier d'eux. C'est pas un acronyme, c'est vraiment un mot anglais en fait qui sera traduit ici en français. Donc, ça vise un public qui est vraiment spécifique, puisque c'est un public qui est ancré dans un processus de marginalisation, d'isolement, et qui ne s'inscrit pas pour l'instant dans une démarche de projet. Ça prend aucun sens pour la personne dans l'immédiat, pour X ou Y raison. Ça peut être l'addiction, ça peut être également autre chose. Donc là, moi, j'ai défini ces personnels, différentes étapes, en tout cas que je retrouve en règle générale dans ce type d'accompagnement. Donc la première, ça sera l'évaluation, évaluer la situation de la personne, voir si la personne est en capacité de se protéger à la rue, si la personne est en capacité de se rendre sur des structures de droit commun, etc. Donc c'est tous des indicateurs donc, qui vont nous permettre de savoir si la personne est ou non, comment dire, je perds mes mots, si la personne est en capacité de se rendre ou pas sur des structures de droit commun, si elle est capable ou pas de se projeter dans une logique de projet. Quand c'est pas le cas, du coup, nous, on va vraiment axer sur favoriser le lien. Donc, c'est-à-dire aller voir la personne régulièrement pour qu'elle puisse vraiment nous repérer comme personne de confiance. C'est une phase qui va durer parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. On est vraiment sur une logique de temps très longue où là, on n'aura quasiment aucune attente au niveau du résultat si c'est vraiment favoriser le lien. On n'est pas dans une logique d'orientation encore. Ensuite, viendra éventuellement la phase où la personne émettra un projet et où on pourra enfin l'accompagner. Donc, ça sera soit une logique de projet au niveau de soins, vers l'accès aux soins, soit une logique de projet face au logement, etc. Donc là, ça dépendra vraiment de la personne. Ensuite, pour parler d'une autre caractéristique qu'on peut retrouver chez les jeunes, donc c'est les animaux. Donc chez les jeunes ou même chez d'autres publics, on peut passer à la diaporama suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc c'est les animaux. Donc les raisons pour lesquelles les personnes à la rue, elles peuvent adopter un animal, donc il y en a plusieurs. Là, j'en explique deux. Donc c'est premièrement donc briser la solitude, avoir un ami, donner et recevoir de l'affection, compter pour quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui est important quand on est à la rue. Le rapport, enfin les contacts sociaux sont très limité et vraiment le côté tactile on l'aura plus et les personnes souvent nous disent bah voilà enfin moi j'ai mon animal il vient il me fait des bisous il me fait des câlins ça me fait du bien donc c'est vraiment au niveau humain on est sur des besoins primaires. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour eux à ce niveau-là. Ensuite, on aura également des personnes qui nous expliquent. Non, on peut revenir à la diapositive précédente. Donc, des personnes qui nous expliquent prendre un animal pour se protéger au niveau de leur squat, éviter les agressions, puisque avoir un animal, ça peut parfois dissuader d'éventuelles personnes qui souhaitent agresser des personnes qui dorment à la rue. Où est-ce qu'on peut orienter, nous, des personnes avec des animaux? Puisqu'il faut savoir que sur l'île, malheureusement, avoir un animal, c'est un frein énorme à l'accès à l'hébergement. C'est vraiment très compliqué pour les personnes d'accéder à des structures. Donc, il y a très peu d'hébergements qui sont accessibles aux personnes accompagnées. Accompagnées d'animaux, il y aura la Bège, qui est une structure d'hébergement gérée par le SIAO. Il faut savoir quand même que pour accéder à cette structure d'hébergement, ça sera plusieurs années d'attente. Donc voilà. Ensuite, on a de l'ALT, donc c'est du logement. Donc là encore, quand on est jeune, bah, forcément, c'est compliqué, puisque accéder au logement, si on n'a pas de ressources, c'est impossible. Et ensuite, de la pension de famille. Là, je vous ai quand même mis la pension de famille. On exclut totalement un public jeune. Ça sera pour des personnes qui seront quand même plus âgées. Les jeunes ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. C'est vraiment pour des personnes étant plus âgées. Ensuite, il y a la halte de nuit. Donc la halte de nuit, il faut faire attention, c'est pas un hébergement, oui et non, c'est plutôt de la mise à l'abri. Ça s'adresse à un public qui ne se rend pas ou plus sur des dispositifs d'accueil ou d'hébergement. C'est vraiment une structure qui sera à bas seuil d'exigence, puisque on sera dans une logique vraiment de mise à l'abri. C'est pas un hébergement, c'est-à-dire que. Il n'y a pas normalement, enfin, il y a pas de. C'est pour des personnes qui, pareil, ne s'inscrivent pas dans un projet pour l'instant, pour lesquelles c'est compliqué pour elles d'adhérer à une autre association qui pourrait s'éloigner ou sont déjà éloignées du dispositif de droit commun. La halte de nuit, c'est aussi un petit peu particulier et pour nous, c'est vraiment sympa puisque c'est une des rares structures qui accepte la consommation d'alcool sur place. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont dans une logique de se dire, bah, plutôt que la personne, elle s'alcoolise en masse avant d'arriver sur notre structure, nous, on accepte qu'elle gère sa consommation à l'intérieur et pour éviter bah, des vagues suite à cette alcoolisation et mettre en échec la personne. Donc là, c'est vraiment un facilitateur pour nous pour pouvoir orienter des personnes qui correspondent à ce profil. Et puis en plus, ils acceptent les animaux. Donc c'est vraiment super. Ensuite, on aura le logement de droit commun en autre solution. Mais comme je vous l'ai dit, quand on est jeune, ce n'est pas facile du tout d'accéder au logement de droit commun. Donc parfois, il peut être difficile pour une personne qui souhaite se rendre en structure de droit commun, donc type CCAS, accueil de jour, etc., de se rendre du coup dans ces structures quand elles sont des animaux. Là, nous, on sera également présent pour l'accompagner. Et si l'accompagnement veut dire attendre avec le chien à l'extérieur, on le fera quand vraiment la personne, elle nous demande, on le fait sans problème. Donc ensuite, une des dernières caractéristiques que j'ai relevées, c'est les troubles psychiques. C'est vraiment une fragilité qui est également de plus en plus présente. On peut passer à la slide suivante, Pascal. Merci. C'est vraiment une caractéristique qui est extrêmement présente chez la population sans domicile et notamment chez les jeunes. Donc beaucoup de personnes en situation de rue, elles souffrent de troubles psychiques et peuvent être en situation de non recours aux soins. Pourquoi? Alors, je vais me retrouver dans le papier pour être sûre de rien rater. Donc, il faut savoir que bah, quand on est à la rue, suivre un traitement, ce n'est pas simple du tout, puisque déjà, le rapport au temps, il n'est pas le même pour ces personnes-là. Dans le cas, par exemple, d'une injection qui doit être réalisée tous les 15 jours, bah, il faut se souvenir que 15 jours, ça tombe tel jour, à telle heure. Et du coup d'y aller. Donc c'est déjà un des premiers freins, nous, qu'on perçoit chez les personnes qui sont en rupture de traitement. Donc il faut savoir que toutes les personnes, elles ne sont pas en rupture de traitement quand elles ont des troubles psychiques. Nous, notre rôle, quand on rencontre des jeunes ou un public... À la rue, ça sera vraiment évalué. Déjà, essayer de voir s'il y a des signes d'une possible pathologie ou pas, si la personne, elle s'inscrit ou non dans une logique de traitement, puisque là, l'enjeu, ça sera que la personne, elle ne reste pas avec ses troubles, puisque c'est une situation qui peut très vite... comme un effet boule de neige, en fait. Les situations, elles peuvent très vite se dégrader à la rue quand on est en trouble, quand on a des troubles psychiques. Donc là, vraiment, l'enjeu pour nous, c'est de faire attention je perds complètement mes mots sur cette partie, désolée. Donc là, on va travailler, nous, en lien avec des équipes mobiles en psychiatrie. Il y a notamment Diogène, etc. Donc, c'est quand on rencontre une personne qui sera en rupture de traitement pour l'accompagner ou en tout cas faire en sorte qu'elle puisse, dans un plus ou moins long terme, s'inscrire à nouveau dans une dynamique de soins, on ira la rencontrer avec une équipe mobile spécifique qui est composée du coup d'infirmiers psychiatriques et de médecins psychiatres. Donc là, on ira rencontrer, eux, ils valideront ou pas un diagnostic et si besoin, si la personne accepte également, parce qu'il faut que la personne accepte, on pourra aller avec elle vers des structures de soins. Donc, il faut savoir que nous, on a plusieurs structures, plusieurs portes d'entrée, en tout cas vers le soin psy sur Lille. Donc, ça peut être les urgences, donc c'est-à-dire qu'une personne décompense, on la rencontre, elle est vraiment dans une situation où psychiquement, ça ne va pas, elle nous appelle à l'aide, etc. Donc là, on peut appeler les urgences avec elle ou l'accompagner pour qu'elle soit prise en charge. Après, les personnes, elles peuvent aussi directement se rendre auprès de leur médecin traitant, etc., donc la médecine de ville, ou alors le CMP. Donc les CMP, c'est les centres médico-psychologiques. Donc sur l'île, en tout cas, même sur toute la France, c'est sectorisé. Donc à savoir que normalement, c'est en fonction de notre adresse. Donc on dépend du coup, en fonction de notre adresse, d'un CMP. En règle générale, c'est un CMP qui est à côté de chez nous. Quand on est sans domicile, forcément, on n'a pas d'adresse. Donc là, sur l'île, ça sera en fonction de notre date de naissance. Donc là, sur la diapo, je vous ai mis en photo la camionnette d'une personne qui dormait du coup dedans. Cette personne, bah, elle souffrait de la pathologie Diogène qui est donc il y a une petite place sur laquelle il y a le volant et en fait monsieur il rentrait du coup par cette petite place là et il y avait un tunnel en fait où il dormait à l'intérieur de son camion. Donc voilà, c'est les personnes qui souffrent de troubles psychiques, il y en a beaucoup et sous des troubles du coup différents. Je vous ai fait également un petit schéma pour vous montrer aussi le cycle qu'on peut avoir, notamment qu'on rencontre en tout cas chez les personnes qui souffrent d'une pathologie type schizophrénie, donc c'est-à-dire que la personne va entendre des voix, etc. La personne, elle va arrêter son traitement pour x ou y raison. Du coup, en règle générale, le traitement prend place à une automédicalisation, notamment par l'alcool pour essayer de diminuer ses voix. Ensuite, il y aura une chronicisation à la rue. La personne, elle s'inscrira dans une situation de non-recours. Les troubles psychiatriques augmenteront et tant que qu'il n'y aura pas de reprise de traitement, les consommations d'alcool vont augmenter, augmenter. Et là, on risque, nous, de perdre l'accroche qu'on a avec la personne. Donc, le but, c'est vraiment essayer de stopper le plus rapidement ce cycle. Et ensuite vient la diapo finale un petit peu sur les différents dispositifs qui existent pour accompagner les jeunes. Donc, on peut passer à la dernière diapo. Donc, il y aura du coup les structures d'hébergement dites 115. Donc, c'est un accueil qui est inconditionnel là, avec ou sans recours. Avec ou sans ressources, donc des situations administratives qui sont précaires ou non, mais on acceptera, enfin sur aucune des structures 115 n'est acceptée des animaux. Ensuite vient les structures d'hébergement ou de logement, vient le SIAO. Donc selon le type de dispositif, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et tous vous les expliquer, ça prendra plus qu'une matinée. Donc il faudra justifier de plusieurs conditions pour pouvoir y prétendre. Les premières conditions en tout cas qui seront essentielles dans la majorité des structures SIAO, ça sera une situation administrative stable, c'est-à-dire en tout cas régulière le plus possible, ensuite des ressources. Ensuite, on a le dispositif hein, chez soi d'abord, pôle jeune. Le dispositif hein, chez soi d'abord, très rapidement, ça accompagne les personnes jeunes de 18 à 25 ans qui souffrent de troubles psychiatriques et du coup, ils les accompagnent vraiment dans une logique de logement de droit commun. Donc, c'est quelque chose de très innovant et qui montre ses preuves. Bien entendu, on est quand même sur une logique de logement de droit commun, même si dans l'immédiat, la personne n'ouvre pas droit à des ressources. Il faut que dans un futur plus ou moins proche, elle puisse ouvrir le droit à des ressources. Ensuite, on a le dispositif Les Clés de l'Avenir, donc là, qui propose également du logement de droit commun pour les jeunes. Donc, c'est environ 10 jeunes par an qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Ensuite, on a les résidences habitat jeunes, anciennement du coup foyer de jeunes enfants, dont on a déjà parlé en début de réunion. Donc, c'est des structures qui accueillent des jeunes de 18 à 30 ans, isolés en couple, parfois en famille, avec ressources, du coup, et il y a des présences de travailleurs sociaux sur place. Et ensuite, un dernier dispositif. Donc, les résidences habitat jeunes, donc il y a un référent extérieur qui est demandé. Pourquoi? Puisque approximativement, il me semble qu'il y a genre un travailleur social pour peut-être 100, 150 personnes. Donc, le référent extérieur est obligatoire. Donc, il faut également qu'il y ait une demande de logement social active. Des ressources sont donc obligatoires. C'est vraiment un tremplin vers le logement de droit commun. Parce que quand une personne, elle peut avoir quelques appréhensions, c'est vraiment pour sécuriser son parcours. Voilà, c'est fini pour moi. Merci de m'avoir écouté.